S'asseoir humblement au pied du Seigneur et écouter sa parole. Alléluia. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu pour tout cela et vous demandons de continuer à prier pour nous. C'est très important d'honorer le mariage, surtout dans ce temps où toutes sortes de vents de ténèbres soufflent et cherchent par tous les moyens à faire disparaître le mariage tel que Dieu l'a institué dès le départ. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que son Église est là, comme porteuse des valeurs du royaume. Et parmi ces valeurs, il y a évidemment le mariage, un mariage qui reste et demeure dans le Seigneur. Amen. Nous allons sans plus tarder incliner nos têtes dans la prière. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, nous tourner vers toi une fois de plus. Pour Seigneur, cette fois-ci, nous recommander à toi, cette fois-ci Seigneur, implorer ta grâce pour que tu nous aides à être dans de bonnes dispositions de cœur alors que nous nous apparaîtons à recevoir ta parole. Merci pour ce temps de louange et d'adoration, pour ce moment de remise des certificats Seigneur. Merci pour tout. Nous voulons que maintenant, ô Dieu, toute notre attention soit tournée vers toi. Nous voulons maintenant nous focaliser sur toi, Seigneur, et avoir des oreilles tournées vers toi et vers toi seul. Parle-nous, Seigneur, révèle-nous ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien, bon appétit. Alléluia. Je voudrais revenir sur notre thème de la fois dernière, à savoir l'incompréhensible dans la compréhension du plan de Dieu pour nos vies. Alléluia. Nous sommes en marche, nous sommes en route vers l'éternité, et alors que nous avançons avec Dieu, toutes sortes de choses arrivent dans notre vie, nous entourent, des circonstances de tout genre, et par rapport à tout cela, bien, nous réagissons en être rationnels. Par rapport à tout ça, nous essayons de comprendre pourquoi ceci nous arrive. Pourquoi cela, cette circonstance difficile, douloureuse, humiliante, surgit-elle dans notre vie? Et pourquoi Dieu l'aurait-elle permise? Parce que nous ne voyons pas comment et pourquoi Dieu pourrait tirer gloire lorsque nous passons par des moments d'humiliation, par des moments où nous devenons la risée de tout le monde. Et donc nous revenons là-dessus. L'incompréhensible, l'insaisissable, l'inexplicable dans cette démarche de vouloir comprendre pourquoi tel événement surgit dans ma vie, pourquoi telle circonstance difficile entoure-t-elle ma vie, où est Dieu dans tout cela et en quoi cela peut-il le glorifier. Nous allons relire très rapidement l'évangile de Jean au chapitre 13. Les 12 premiers versets, il s'agit donc de cette scène du lavage des pieds par le Seigneur, des lavages des pieds des disciples par le Seigneur. Nous lisons à partir du premier verset avant la fête de Pâques. Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout ou jusqu'à l'extrême. Et pendant le repas, alors que les diables avaient déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite ou par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, mais il est entièrement pur. et vous êtes purs, mais non pas tous. Il connaissait en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous dis? Amen. Je l'ai souligné la fois dernière, quand vous regardez ce passage, eh bien vous réalisez tout de suite que le verbe savoir, le verbe comprendre, le verbe connaître est bien présent. Il y a d'un côté celui qui sait tout, mais il y a de l'autre côté celui qui ne comprend pas ce que le Seigneur fait. L'incompréhensible, l'insaisissable, mes amis, l'inexplicable. Lorsque nous essayons de comprendre pourquoi le Seigneur permet que nous passions par tel ou tel autre moment difficile. Le lavage des pieds des disciples par le Seigneur Jésus. Nous venons de le lire, nous sommes là dans une pièce. C'était donc, comme nous l'avons lu avant la fête de Pâques, et là dans cette pièce, eh bien le Seigneur se lève, il ôte ses vêtements, il prend un linge, il s'entoure, il prend un bassin et puis verse de l'eau dans ces bassins, il se penche et là il se livre à quelque chose de terrible. C'est-à-dire laver les pieds de ses disciples et puis ensuite les essuyer. Il commence par le premier disciple dont on ne lui dit pas le nom et puis un autre et puis un autre. Et quand il arrive à Pierre, Pierre réagit. Pierre lui dit, Seigneur, toi me lavais les pieds. Toi le Seigneur, le Messie. Comment puis-je accepter que tu sois humilié à ce point-là? Non, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Et là, c'est alors que le Seigneur lui dit, Pierre, oui Simon Pierre, ce que je fais, ce que je suis en train de faire maintenant, tu ne peux pas le savoir, mais il viendra un temps où tu le comprendras. Il viendra un temps où enfin ton intelligence éclairée pourra alors comprendre pourquoi je fais ceci, pourquoi j'ai fait cela. Mes amis, il nous arrive tous d'une manière ou d'une autre d'être confrontés à des situations difficiles. Il nous arrive tous de passer par des moments qui suscitent en nous des interrogations, des moments, mes amis, qui nous amènent à réfléchir, qui nous amènent à vouloir comprendre pourquoi le Seigneur permet que dans ce contexte-ci, je puisse perdre mon travail, que dans ce contexte-ci, je passe par des moments d'humiliation, ce contexte-ci, que je puisse perdre, eh bien, quelque chose qui m'était cher. On essaye de comprendre. Eh bien, cela est tout à fait normal, comme nous l'avons vu et comme vous le savez. Essayez de comprendre les tenants et les aboutissants des différentes circonstances qui entourent nos vies. Essayez de comprendre le bien fondé, le sens de tel ou tel autre problème qui nous arrive est tout à fait inhérent, mes amis, à la nature de l'homme. Cela est inséparable de notre nature. Cela est intrinsèque à la nature humaine parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, parce que Dieu nous a dotés d'une intelligence, il nous a dotés de la raison et grâce à cette faculté, eh bien nous essayons de comprendre, nous essayons d'analyser, d'expliquer et de tirer des conclusions par rapport à ceci ou par rapport à cela. Cela n'est pas mauvais, mais cependant, nous devons savoir que quelle que soit notre intelligence, quelles que soient nos aptitudes spirituelles, quelles que soient nos expériences acquises avec les années, nous devons savoir que notre compréhension des choses, notre connaissance sera toujours limitée. Il nous sera impossible de connaître dans l'immédiat pourquoi le Seigneur permet que tout d'un coup je perde mon emploi, que je me retrouve au chômage. Dans l'immédiat, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi cette épreuve si difficile, alors qu'on s'y attendait le moins, alors que tous les paramètres étaient au vert, alors que nous entrevoyons l'avenir de manière tout à fait extraordinaire, et puis tout d'un coup, il y a là comme une obscurité qui tombe sur nous. Tout d'un coup, eh bien, la lumière s'éteint. Nous nous retrouvons dans le noir. Et quand on est dans le noir, eh bien, on est effrayé. C'est la panique. Voyez-vous, on ne sait où aller. On est dans le noir, on tourne en rond. Et là, on se pose des questions. Mais sachant que quel que soit ce que nous sommes, il nous sera toujours difficile et quelquefois impossible de comprendre pourquoi le Seigneur permet cette perte. Pourquoi le Seigneur permet que cet ouragan surgisse dans notre vie. Pourquoi tout d'un coup notre barque se met à tanguer? Parce qu'il y a de plus en plus de tempêtes. Parce que cette tempête soulève toutes sortes de houles qui s'avèrent de plus en plus dangereuses pour notre barque. Voyez-vous, nous ne pourrons jamais l'expliquer. Voilà pourquoi la Bible nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui nous dit sous l'inspiration de Dieu, qu'aujourd'hui, eh bien, je connais partiellement. Je connais en partie, mais viendra un temps où je connaîtrai pleinement. Alléluia. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi les choses traînent en longueur. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi, après avoir versé autant de larmes, le ciel ne réagit pas toujours. Au contraire, c'est l'enfer qui se réjouit. Ce sont mes adversaires qui se moquent de plus en plus de moi et qui se moquent même de mon Dieu. Car ils disent, lui qui brille toujours, lui qui est toujours fidèle à son Église, lui qui a toujours la Bible en main, qui la médite jour et nuit, lui qui jeûne, etc. Voilà dans quelle situation il est. Où est son Dieu? Simon, Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne peux le saisir, tu ne peux l'expliquer. Tu ne peux le comprendre, tu ne peux le connaître, mais viendra un temps où enfin tu connaîtras, tu comprendras. Alors pourquoi j'avais permis tel événement? Pourquoi j'avais permis que tu rencontres telle ou telle autre montagne? Oui, marcher avec Jésus, mes amis, c'est s'attendre à toutes sortes de surprises. Le Seigneur ne nous dit pas bien avant, comment notre vie se passerait, jusqu'à ce qu'il revienne ou jusqu'à ce qu'il nous reprenne auprès de lui. La manière d'agir du Seigneur a toujours échappé à la logique humaine. En tant qu'être humain, nous avons l'habitude de vivre selon des catégories établies ou préétablies. Nous avons notre logique en nous, mais sachons que notre logique en nous n'a rien à voir avec la logique de Dieu. Voyez-vous? Il est très difficile de mettre Dieu dans une sorte de bulle, dans une catégorie, de dire, voilà, le Seigneur a toujours agi ainsi. Quand là, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'après, il y aura autre chose, pas du tout. C'est le Dieu qui nous surprend de jour en jour. Avec lui, nous allons de surprise en surprise. Et Pierre, comme je le soulignais la fois dernière, était donc habitué à voir son Sauveur, à voir le Seigneur Jésus dire ou faire de choses imprévisibles, qui échappaient à la logique des hommes, à la manière de faire des hommes. Voyez-vous? Je vous ai donné juste trois exemples. D'abord avec Bartimée, ce mendiant aveugle de Jéricho. Il apprend que le Seigneur passe par là. Il se lève, il crie à Jésus, le Seigneur s'arrête. Il demande à ce que l'aveugle puisse, qu'on aille chercher l'aveugle. Et quand l'aveugle arrive en face du Seigneur, il lui pose une question. « Que veux-tu que je te fasse ?» L'aveugle répond, « Rabouni, que je recouvre la vue. » Sur ce, le Seigneur lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Sur le champ, mes amis, de manière instantanée, cet homme expérimente la guérison. Ses yeux s'ouvrent, et il se met à suivre Jésus, alléluia. Il rejoint ce cortège extraordinaire. Et à la tête de ce cortège, eh bien, il y avait le Seigneur de gloire. Il rejoint ce mouvement, cette dynamique du royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Et puis, le même Jésus, il rencontre un homme qui était possédé par une légion démoniaque. Cet homme, l'homme des tombeaux, qui était un véritable danger, une menace pour les gens de sa région. Cet homme a eu la grâce de rencontrer le Seigneur. Le Seigneur chasse ses démons. Cet homme retrouve la raison. Voyez-vous, il est tellement touché, il retrouve une vie normale. Lui qui sentait mauvais, le voilà qui retrouve la raison. Le voilà qui se lave et qui met des vêtements neufs. Et puis ensuite, après ce miracle, le Seigneur s'apprête à remonter dans la barque pour repartir, puisque c'était de l'autre côté de la mer de Galilée. Eh bien, cet homme-là lui dit, « Seigneur, je voudrais te suivre. Je voudrais m'embarquer avec toi. » Le Seigneur lui dit, « Pas question. Tu ne viens pas avec nous. Va dans ta maison. Va proclamer au tien ce que le Seigneur a fait pour toi. » Alléluia. Pour l'un, il le laisse le suivre. Oui ou non? Pour l'autre, il dit, « Non, tu ne viens pas. Va proclamer le miracle que tu viens de vivre. Va annoncer cette bonne nouvelle aux gens de ta maison. » Et puis un autre cas de cécité. Cette fois-ci, c'est cet aveugle de naissance. Quand le Seigneur rencontre cet homme, eh bien, on se serait attendu qu'il fasse la même chose que pour Bartimée. « Va, ta foi t'a sauvé. » Non, pas du tout. Le Seigneur crache par terre. Et avec sa salive, il fait de la boue. Il prend cette boue, il l'applique sur les yeux de l'aveugle et il dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » L'aveugle obéit. Évidemment, il avait des gens qui l'ont conduit jusqu'au réservoir. Il va se laver. Et quand il revient, la Bible nous dit qu'il voyait. Alléluia. Vous voyez, il était très, très difficile. Voyez, c'était quelqu'un d'imprévisible. Et j'aimerais vous dire que Jésus n'a pas changé. Il est très difficile de savoir pourquoi il fait ceci et pourquoi il le fait de cette manière. Pour Pierre, voir Jésus s'abaisser et se mettre à essuyer les pieds, eh bien, c'était quelque chose de terrible. Lui qui savait, comme nous l'avons vu, que les pieds étaient une partie peu honorable du corps. Les gens à l'époque mettaient des sandales ouvertes, voyez-vous? Eh bien, ils marchaient, et quand ils arrivaient quelque part, leurs pieds étaient sales. C'est ainsi qu'ils étaient obligés à se laver fréquemment les pieds. Et cette tâche de laver les pieds des hôtes ou des invités était généralement réservée aux esclaves, aux serviteurs. Voilà donc, Pierre connaissait tout cela. Et là, il voit le Messie, il voit Jésus, le Juif le plus honorable, qui ait jamais foulé le sol de cette terre. Il le voit se pencher, il le voit tenir les pieds sales. Lui qui savait que les pieds, lui Pierre, que les pieds étaient souvent en contact avec des objets impurs. Vous pouviez marcher sur des ossements, et aller à l'encontre de la loi de Moïse, qui interdisait tout contact avec un cadavre ou que sais-je. Il savait tout cela. Mais là, il assiste à une scène ubuesque, à une scène surréaliste. C'est le Fils de Dieu, celui qui existe de toute éternité, qui s'abaisse. Comment est-ce possible? Eh bien, pour Pierre, c'est inacceptable. Pour Pierre, ce n'est pas bien qu'il puisse s'abaisser ainsi. Pour Pierre, c'est le monde à l'envers. Il aurait aimé, lui, dans cette pièce-là, lui, Pierre, prendre de l'eau, prendre le linge, se cindre, se pencher et laver les pieds de son Seigneur, et non pas le contraire. C'est là qu'il va lui dire, « Toi, Seigneur, mon Seigneur, toi, mon Sauveur, tu laverais les pieds ?» Non. je ne l'accepterai pas. Quand Jésus arrive à son niveau, il retire ses pieds. C'est là qu'il va lui dire, Pierre, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. Oh, alléluia. Ce que je fais maintenant, cette circonstance qui t'humilie et qui t'attire sur toi toutes sortes de moqueries, ce que je fais maintenant dans ta vie, et à cause de ça, tu es tout le temps en pleurs, en larmes, qui t'attire de la honte. Ce que je fais là, tu ne peux pas le saisir maintenant. Tu ne peux pas l'expliquer maintenant. Tu ne peux pas le comprendre. Mais viendra un temps où tu le comprendras. Oh, alléluia. Il pensait bien faire. Il voulait éviter à son sauveur ce déshonneur. Vous voyez ? Il s'est certainement dit, mais en quoi cet abaissement, en quoi le fait qu'il s'humilie autant, peut-il le glorifier ? Nous nous sommes tous posé cette question. Quand nous nous sommes retrouvés dans des situations difficiles, nous avons dit, Seigneur, maintenant tout le monde se moque de moi. Tout le monde sait que je t'appartiens. J'essaie d'attirer les gens à toi. Combien de fois je leur ai dit que tu es le Dieu qui entend la prière et qui l'exauce. Combien de fois je proclamais ta puissance. Combien de fois je leur ai dit, venez à Christ. Lui seul est capable de prendre vos fardeaux. Et aujourd'hui, les mêmes gens me voient, moi, dans cette situation difficile, cette situation d'humiliation. Alors Seigneur, en quoi cela va-t-il te glorifier? En quoi cela va-t-il t'honorer? Mes amis, comme je le soulignais la dernière fois, la plus grande partie de notre vie d'enfant de Dieu, la plus grande partie de notre vie de disciple du Christ consiste à faire confiance au Seigneur aujourd'hui et à le comprendre plus tard. Je ne sais pas pourquoi cela m'arrive, mais je sais une chose, que mon Rédempteur est toujours sur son trône. Dans sa puissance, il aurait pu m'éviter cela, mais il ne l'a pas fait. Alors il sait pourquoi. Gloire à Dieu. Lui faire confiance aujourd'hui. Ce que Dieu attend de nous dans ce genre de situations, ces situations qui nous dépassent, ces situations inconcevables, ces situations qui sont au-delà de toute raison, de toute logique, c'est qu'il attend de nous alors que nous faisons face à toutes sortes de circonstances adverses, à la maladie, à la perte, à l'humiliation. C'est qu'il attend de nous, mes amis, alors que nous faisons face à toutes sortes d'épreuves, des épreuves de plus en plus difficiles, c'est que nous apprenions à lui faire confiance et que nous cessions de nous lamenter, que nous cessions, mes amis, de nous plaindre, voyez-vous, et de vouloir trouver une explication à tout. C'est parce que certains d'entre nous voudraient absolument savoir pourquoi. Pourquoi cela leur arrive? Et pourquoi sous cette forme-là? Et qu'est-ce qu'ils seront demain? Eh bien, parce que les gens cherchent une explication, qu'ils sont prêts à tomber entre les mains de n'importe quel prophète. Pour autant qu'ils leur disent des choses qu'ils veulent bien entendre. Et dans la plupart des cas, eh bien, le prophète, dont la plupart sont des fins psychologues, voilà, il manie avec dextérité, avec habileté, la psychologie suggestive. Dans la plupart des cas, ces faux prophètes vont essayer de vous ramener dans votre passé et essayer de vous charger des péchés pour lesquels vous vous étiez déjà repenti. Dans la plupart des cas, ils vont essayer de trouver une cause en dehors de votre vie, au niveau de la famille. Au niveau des grands-parents. Ah tiens, vous êtes de telle tribu. Dieu me dit, ton ancêtre était cannibale, un anthropophage. Ton ancêtre, oh, était le plus grand sorcier de votre région. C'est à cause de cela que cela vous arrive. comme si lorsque Dieu nous pardonne, il pardonne à moitié. Et beaucoup sont tombés dans ce piège. Et si tu veux que les choses marchent, tu dois amener une offrande de quoi? De consécration, de sacrifice. De quoi? Il n'y a qu'une seule offrande que le ciel a agréée. C'est celui de Jésus à la croix de Golgotha. Grâce à ce sacrifice, eh bien, je peux être béni sans fournir aucun effort, si ce n'est de croire en Jésus, de m'appuyer sur l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Il y a des choses que tu ne comprendras jamais, mon frère et ma sœur. Accepte l'humiliation aujourd'hui, car l'humiliation avec le Seigneur précède toujours l'élévation, précède toujours la gloire. Nous devons savoir quel est le projet, le plan de Dieu pour notre vie, comme nous l'avons dit, peuvent s'étendre bien au-delà de nous-mêmes et parfois même au-delà de plusieurs générations. Dieu ne voit pas que le présent. Dieu ne voit pas que notre vie, mes amis. Dieu travaille en nous, c'est vrai. Car son objectif suprême, c'est de nous faire ressembler à Christ. Alléluia. Voilà l'objectif numéro un. L'objectif qu'il poursuit dans chacune de nos vies, c'est nous faire ressembler à Jésus et à Jésus seul. Mais il poursuit également ses objectifs ici-bas et il nous utilise comme des outils. En d'autres mots, Dieu travaille en nous, dans notre vie, mais Dieu travaille également à travers nos vies. Si vous êtes là, c'est parce que quelqu'un un jour vous a parlé du Seigneur, oui ou non? Si vous êtes là parce qu'un jour quelqu'un a proclamé la parole de Dieu, vous l'avez suivi. Oui, souvent nous ne regardons qu'à nous. Voyez-vous, nous essayons de comprendre, Seigneur, pourquoi tu permets ceci, pourquoi tu permets cela, en quoi cette circonstance qui m'humilie peut-elle contribuer à ta gloire? Seigneur, avec tout ça, comment veux-tu que je parle de ta puissance alors que moi-même, eh bien, mon corps est de plus en plus rongé par la maladie? Comment puis-je parler de toi comme étant le Dieu qui guérit si, Seigneur, moi-même, depuis que je te demande, eh bien, la maladie est toujours là? Tant de questions. Oui, Dieu est en train d'accomplir quelque chose dans chacun de nous. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Mais Dieu voit au-delà de nos vies. Il veut agir à travers nos vies. Et donc, pour que tout cela s'accomplisse, à la fois son plan pour nos vies personnelles, mais également son plan en rapport avec les objectifs qu'il a ici-bas, eh bien, il va permettre toutes sortes de circonstances, toutes sortes de choses. Nous allons prendre deux exemples. Aujourd'hui, nous verrons juste un seul exemple. Deux exemples dans la parole de Dieu. Deux exemples qui sont l'illustration de cette vérité, de ce principe spirituel qui veut que Dieu accomplisse des choses que nous ne comprenons pas, mais que seulement plus tard, ce n'est que plus tard que nous le comprendrons. Dieu qui accomplit des choses aujourd'hui très difficiles pour nous, mais avec le temps, nous finissons par réaliser pourquoi il avait tant tardé de réagir par rapport à nous. Pourquoi il n'avait pas exaucé notre prière. Il nous avait laissé pleurer, tourner en rond. Il nous avait laissé dans cette humiliation. Aujourd'hui, nous allons parler de Zacharie et d'Élisabeth. Eh oui. Zacharie, sacrificateur, nous sommes dans Luc chapitre 1er. Vous connaissez l'histoire de cet homme, Zacharie, qui était sacrificateur. C'est-à-dire qui faisait partie de ces rares personnes que Dieu avait mises à part pour servir au temple, pour être des outils entre ses mains pour la bénédiction du peuple de Dieu. N'était sacrificateur qui le voulait, pas du tout. Il y avait donc des conditions préalables. Il fallait descendre de Lévi et puis descendre d'Aaron. Et la Bible nous dit que cet homme, Zacharie, était sacrificateur. Il était donc au service de Dieu. Cet homme était marié à Élisabeth. Ils se sont connus. Ils se sont rencontrés, se sont mariés. Et puis ils ont commencé leur vie à deux. Et quand on se marie, et surtout à cette époque-là, eh bien, après la bénédiction du mariage, celle qui vient ensuite, c'est laquelle ? Ce sont les enfants, n'est-ce pas ? Mais voilà que lui, le sacrificateur, et sa chère épouse Élisabeth, après le mariage, première année, deuxième année, troisième, pas d'enfants. Voyez-vous ? Et pourtant, la Bible leur rend un hommage extraordinaire. La Bible nous dit que tous deux, le verset 6 de Luc chapitre 1er, tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable, vous vous rendez compte, d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur, des vrais disciples, oui ou non, qui respectaient à la lettre la loi, les commandements, les ordonnances du Seigneur, alléluia. C'est le Seigneur qui leur rend ces témoignages. Malgré leur piété, malgré leur consécration à Dieu, bien que marchant dans un esprit d'obéissance à la parole de Dieu, eh bien la Bible nous dit au verset 7, mais, Zacharie et Élisabeth n'avaient pas d'enfants. La raison, c'est qu'Élisabeth était stérile. Et puis le temps a passé. Pendant toutes ces années, ce qui est formidable avec Zacharie, c'est qu'il est resté fidèle. Il a continué à servir le Seigneur. Il n'a pas baissé les bras en disant, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que je n'aie pas d'enfant. Il savait mieux que quiconque que le sacerdoce se transmettait de père en fils. Voyez-vous ? Et quand un sacrificateur mourait sans laisser de fils, eh bien, il privait quelque part Israël d'avoir un sacrificateur. Évidemment, d'autres se levaient, mais c'était le plus grand souhait. Oui, malgré ses difficultés, malgré cette épreuve, Zacharie est resté fidèle. Zacharie a persévéré dans sa responsabilité. Zacharie a continué à servir le Seigneur. Quelle leçon pour nous qui avons tendance à baisser les bras. Dès qu'il y a un problème qui surgit, dès qu'il y a quelque chose qui nous contrarie, dès qu'il y a un besoin pour lequel nous prions et que la réponse ne vient pas tout de suite, nous avons tendance à baisser les bras. Nous avons tendance à nous relâcher dans notre engagement vis-à-vis du Seigneur. Combien de gens, mes amis, se sont détournés du Seigneur. Alors qu'autrefois, ils étaient très zélés. Alors que naguère, ils avaient une vie irréprochable aux yeux de Dieu. Leur engagement, eh bien, était un motif d'encouragement pour les autres. Mais voilà qu'un jour, ils sont passés par des moments difficiles. Et dans ces moments difficiles, ils ont pleuré. Ils ont versé des larmes. Ils ont prié, ils ont jeûné. Mais la réponse n'est jamais venue. Et la réponse n'étant pas venue, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y en a qui ont baissé le bras, il y en a qui se sont découragés, il y en a même qui ont fini par quitter les églises. Ce qui n'a pas été le cas, mes amis, pour cet homme, Zacharie. Lui, sa femme, ont continué à servir, à aller de l'avant, malgré ce besoin. Ils ont continué à prier. Ils ne se sont pas relâchés. Ils ont continué à demander au Seigneur un enfant. Mais entre-temps, les années passent, entre-temps l'âge passe par là. Pendant ce temps-là, non seulement il y a eu l'âge, mais il y a eu aussi le regard des autres. Voyez-vous, les gens le regardaient, mais tiens, comment expliquer que lui qui a cette grâce d'entrer dans le lieu saint, de pouvoir offrir de l'encens, de parfums au Seigneur. Lui qui est là comme un intercesseur pour nous. Lui qui entre là-bas en notre faveur. Comment expliquer qu'il n'a toujours pas d'enfant? Comment expliquer que sa femme soit stérile quand on sait que souvent la stérilité était considérée comme étant un signe de malédiction? Et mourir sans les seins de postérité était quelque chose de terrible. Rappelez-vous de Anne, l'épouse d'Elkana, qui deviendra plus tard la mère de qui? Samuel. Comment sa rivale l'accablait, s'est moquée d'elle. Comment cette femme a souffert? Voyez-vous? Ah ben ça doit avoir été le cas pour Élisabeth. Voyez-vous le regard des autres, peut-être même des moqueries, des attitudes dures. Dieu seul sait combien de fois cette femme a versé des larmes seule dans sa chambre en disant « Adonai, jusqu'à quand vas-tu nous laisser dans cette situation? L'âge est en train d'avancer. Même si tu nous visitais maintenant, nous sommes vieux. » C'est d'ailleurs ce que son mari va dire. Voyez-vous, ils sont devenus vieux. La vieillesse est passée par là. L'âge canonique est passé par là. Et puis un jour, alors qu'il était au temple, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, un ange lui apparaît. Oh, alléluia! Un ange lui apparaît. Peut-être que pour l'homme, Zacharie, c'était trop tard. D'ailleurs, en effet, il a cru que c'était trop tard. Il a attendu pendant qu'il était jeune en se disant, bon, je suis encore jeune. Si Dieu ne répond pas ici à 40 ans, à 50 ans, ça peut aller. Mais entre-temps, sa femme aussi gagnait par l'âge. Et là, le Seigneur lui apparaît. Et le Seigneur, comment? L'ange lui apparaît. Et l'ange lui dit ceci. Sois sans crainte, Zacharie. Verset 13 de Luc chapitre 1er. Car ta prière a été exaucée. Le Seigneur a son temps. Il n'agit jamais en retard, mes amis, ni en avance. Le Seigneur a son momentum. Le moment où il dit, c'est maintenant. Jamais avant, jamais après. Pourquoi n'avait-il pas répondu aussitôt qu'ils avaient prié? Pourquoi a-t-il laissé ce couple vieillir? Et puis arriver un moment où ils étaient tous désespérés. Quand Zacharie regardait son épouse, ah, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Là, j'ai passé par là, c'est trop tard. Même si le Seigneur la rendait fertile aujourd'hui, comment voulez-vous qu'elle puisse porter un enfant? C'est trop tard. Moi-même, je suis avancé en âge. Mais c'était sans compter sur le Seigneur. Lorsque son temps arrive, personne ne peut l'arrêter. Le ciel a bougé. L'ange est venu. L'ange lui a emporté une bonne nouvelle. Ta prière a été exaucée. Et l'ange va plus loin. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean, qui veut dire l'Éternel fait grâce. Adonai fait grâce. Oh, alléluia. Tu l'appelleras du nom de Jean. Et il ajoute, il sera pour toi d'abord. Toi, évidemment, derrière Zacharie, il y a son épouse. Un sujet de joie et d'allégresse. Et pour beaucoup, se réjouiront de sa naissance. Zacharie réagit. Évidemment, c'est une très bonne nouvelle. Zacharie réagit. Voyez-vous? Que dit-il? Verset 18. À quoi reconnaîtrai-je? Dit-il à l'ange. Cela, car je suis vieux. Et ma femme est d'un âge avancé. Comme pour dire, mais comment veux-tu que cela arrive? Et c'est là que l'ange, au verset 19, lui répond, moi, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Oh, alléluia! Le moment était venu. Le Seigneur s'élevait de son trône. Il a envoyé son ange pour rassurer Zacharie et lui dire qu'il allait concevoir et avoir un enfant. Alléluia. Pour Zacharie, c'était trop tard, n'est-ce pas? Mes amis, Dieu n'agit jamais en retard. Ne regarde pas aux circonstances, ne dis pas, mais je ne vois pas comment dans ces circonstances, Dieu peut me bénir. Non! Il est capable de tout. Nous nous voyons comme ça. Là où il n'y a que deux possibilités, celle-ci et celle-là. Mais lui voit 1000 possibilités. Alléluia. Gloire à Dieu. Zacharie, pour avancer vite, Zacharie avait demandé un enfant. Un enfant qui puisse être un sujet de joie, un sujet d'allégresse pour lui et son épouse. Un enfant comme tant d'autres parents en avaient. Mais Dieu va aller au-delà. Dieu va aller au-delà, mes amis. Dieu va lui donner un enfant. Mais à travers cet enfant, Dieu va donner un précurseur à Israël. Oh, alléluia. Dieu va au-delà. Il travaille en nous, mais il travaille également à travers nous. Zacharie et Élisabeth ne pouvaient pas s'imaginer que si leur prière n'avait pas été exaucée pendant toutes ces années, c'est parce que Dieu savait ce qu'il faisait. Il attendait que son temps arrive. Parce que l'enfant qui allait venir allait être non seulement un enfant qui soit un sujet de joie pour Zacharie et son épouse, mais l'enfant qui allait arriver devait être aussi une bénédiction pour les autres, une bénédiction pour Israël. Ainsi, en donnant Jean-Baptiste comme enfant à Zacharie et Élisabeth, il a donné à Israël l'homme qui allait préparer la venue du Messie. Alléluia! Zacharie et Élisabeth pouvaient se poser des questions. Seigneur, je ne comprends pas, nous ne comprenons pas. Pourquoi tu as permis cette stérilité? Pourquoi tout ce temps d'humiliation, des larmes versées, des prières qui sont montées vers toi pendant de nombreuses années, et entre-temps, nous avons fait l'objet de moqueries. Pourquoi? Vous ne pouvez pas les savoir. Si le Seigneur pouvait leur parler à ce moment-là, il leur aurait dit, comme il a dit à Pierre, « Ce que j'ai fait, tu ne peux le comprendre. » Mais tu le comprendras. Alléluia. Effectivement, il a compris. Cet enfant devait naître un tout petit peu avant la naissance du Messie. Pour grandir presque ensemble et devenir le préparateur des voies du Seigneur. Et devenir le précurseur, celui qui allait préparer Israël à accueillir le Messie, à recevoir le Messie. Cet enfant va être une bénédiction pour son père et sa mère. Au 8e jour, le jour de sa circoncision, Zacharie, son père, nous dit la Bible, au verset 67, avant de terminer, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint. Et prophétisa. Quelle bénédiction! Pendant toutes ces années, il se contentait simplement d'être sacrificateur. Mais le voilà maintenant qu'il expérimente la plénitude du Saint-Esprit. Le voilà maintenant qui donne une prophétie pour Israël, mais également une prophétie pour son fils. Donc le fils lui a apporté des bénédictions au-delà de tout ce qu'il pouvait s'imaginer. Mes amis, le temps de Dieu reste le meilleur temps qui soit. Le momentum de Dieu, voilà ce dont nous avons besoin. Pouvait-il s'imaginer qu'un jour, lui, le sacrificateur, chargé simplement d'exercer sa responsabilité là, au temple, brûlait le parfum, et puis après son service, retourner chez lui, pouvait-il s'imaginer qu'un jour, l'Esprit du Seigneur, cet Esprit qui était descendu sur Esaïe, sur Jérémie, sur tous les prophètes, eh bien cet Esprit descendrait un jour sur lui? Non. Alors, mon frère, ma sœur, patience. Dieu sait, quand le moment sera venu, tu comprendras qu'il fallait que tu passes par là. Il prophétise, il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité, racheté son peuple. Là, il s'adresse à Israël. Et puis ensuite, il va prophétiser sur son fils. Et toi, petit enfant, dit-il, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies. Ils avaient demandé du bronze, mais ils vont recevoir de l'or. Marie et Marthe avaient demandé une guérison pour leur frère, n'est-ce pas? Leur frère était malade, Lazare. Elles ont envoyé un message au Seigneur pour qu'il vienne guérir. Le Seigneur, entre-temps, va prendre tout son temps. Et entre-temps, Lazare meurt. Pour les deux sœurs, c'était larmes. Seigneur, pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi, Seigneur, il fallait que tu viennes? Maintenant, il est mort. Le Seigneur aurait pu leur dire ce qu'il avait dit à Pierre. Marthe, Marie, ce que je fais, vous ne le savez pas, mais vous le comprendrez plus tard. Ils ont versé des larmes. Ils sont passés par un deuil. Pourquoi? Pourquoi? Dieu savait. Et quand il arrive, eh bien, c'est une résurrection qu'elles vont recevoir. Et là, le Seigneur va se glorifier davantage. Pour eux, dans ce contexte-là, Dieu ne pouvait se glorifier que par une résurrection. D'autres avaient reçu simplement une guérison. Ça suffisait pour glorifier le Seigneur. Mais dans ce cas-là, il fallait une résurrection. Mes amis, soyons patients. Faisons confiance au Seigneur aujourd'hui. Nous ne comprenons pas pourquoi, mais comme il a dit à Pierre, ce que je fais, ces circonstances que je permets dans ta vie, ces événements qui surgissent et qui t'accablent, tu ne le comprends pas maintenant. Et tu ne peux le savoir. Et tu ne peux pas connaître ce que je fais. Mais un jour, tu le comprendras. Alors tu te diras, maintenant je comprends. Donc il a fallu tout ce temps, ces épreuves, que je change de lieu, que je me retrouve là pour finalement connaître l'élévation et être assis sur un piédestal où maintenant tout le monde me voit et me dit, mais ce n'est pas possible. Comment tu as fait pour arriver là-bas? Dieu est puissant. Alors accepte ce qu'il est en train de faire sans le comprendre. Inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci de nous parler une fois de plus par rapport à la manière dont tu agis afin d'accomplir, Seigneur, tes projets pour nos vies, mais également tes projets à travers nos vies. Tu vois, Seigneur, toutes ces circonstances difficiles qui nous entourent. Et en face de ces circonstances, nous n'avons qu'une explication. Nous essayons de comprendre les tenants, les aboutissants de tout cela. Plus nous essayons de comprendre, plus, Seigneur, cela nous paraît inconcevable. Cela nous paraît inexplicable. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous as parlé. Ce que tu attends de nous dans ces moments difficiles, où nous ne comprenons rien, où nous ne savons pas pourquoi tu le fais, ce que tu attends de nous, ce que nous te fassions confiance. Que nous continuions, Seigneur, à croire en toi, à nous asseoir sur ta parole, jusqu'au jour où enfin tu interviendras en notre faveur. Alors là, nous comprendrons pourquoi. Zacharie et Élisabeth ont compris, Seigneur, pourquoi tu avais permis toutes ces années de larmes, de pleurs, d'humiliation, de mépris, de moquerie. Pourquoi, Seigneur, tu avais permis tout cela? Quand enfin Jean-Baptiste est arrivé, alors ils ont compris pourquoi, Seigneur, tu n'avais pas répondu tout de suite, aussitôt qu'il t'avait demandé un enfant. Tu as toujours ton temps en toi. Tu voulais que cet enfant, non seulement qu'il soit une bénédiction pour Zacharie et Élisabeth, ses parents, mais aussi que cet enfant soit une bénédiction pour Israël, que beaucoup se réjouissent de sa naissance, ce qui a été le cas. Oh, aide-nous à te faire confiance. Merci pour tout, Seigneur. Maintenant, nous voulons te prier pour les offrandes. Puisses-tu poser ta main sur les paniers alors qu'ils vont, Seigneur, passer, que tout cela puisse contribuer, oh Dieu, à l'avancement de ton règne ici à la borne, au nom de Jésus. Amen. Voilà, gloire au Seigneur.